Non, je ne vois pas le monde tel qu'il est, comme il est. Je le vois comme moi, tel que moi je me vois. Non, je ne vois pas le monde tel qu'il est, comme il est. Je le vois comme moi, tel que moi je me vois.
Je déboule, je vois rouge.
Je ne vois pas le monde.
Je ne vois pas ce qui bouge.
Je ne vois pas le monde.
Je critique, je sceptique.
Je ne vois pas le monde.
Je n'entends pas la musique.
Je ne vois pas le monde.
Moi qui ne vois que moi, moi qui me prends pour le roi. Et je parle et je cours.
Je ne vois pas le monde.
Et je cours et je parle.
Je ne vois pas le monde.
Je fais tout, tout de suite.
Je ne vois pas le monde.
Je fais tout au plus vite.
Je ne vois pas le monde.
Moi qui ne vois que moi, moi qui suis pauvre de moi. Yeah!
Christophe Belœil, bonjour.
Bonjour.
Alors Belœil, un nom qui sonne aux oreilles. Vous repartez sur un projet maintenant en solo avec d'autres musiciens. Le groupe s'est séparé en 2006. Qu'est-ce qui vous a donné le souffle de reprendre la route des chansons et de la musique?
Oui, c'est assez étonnant. Enfin, ça m'est venu comme ça. Enfin, il a sans doute fallu vivre un temps mort déjà. Je pense que c'est important de s'arrêter simplement pour se permettre de changer. Je pense pas qu'il suffit de se dire je vais changer pour changer et grandir. Pour vraiment vivre un arrêt, se dire là je regarde ailleurs, j'attends que d'autres choses m'arrivent. Et puis une fois qu'on sent que ces choses-là commencent à nous transformer, naturellement des chansons reviennent. Et puis évidemment avec ce fameux petit changement que j'attendais et puis qui maintenant est là, quoi.
Donc cet album que vous sortez bientôt là, c'est Je ne vois pas le monde. Mm-hmm. Le premier album de Belœil, c'était Le Cri, et visiblement il y a comme une suite entre les deux. Le changement, est-ce que c'est que là, dans cet album Je ne vois pas le monde, vous avez trouvé votre équilibre dans l'écriture que vous autorisez maintenant et que vous autorisiez peut-être un peu moins dans Belœil?
Oui, je pense, ouais. Justement, c'est effectivement c'est un pont 10 ans en arrière, donc c'est à la fois peut-être la suite du Cri, et puis en même temps, jamais je me sentais capable, à cette époque en tout cas, de franchir ce pas, qui est un pas tout simple, c'est comment écrire le plus simplement possible avec les mots de tous les jours, les mots de tous les gens, les mots que j'utilise moi, tout quotidiennement, et en faire des chansons. Voilà, je trouve ça en fait très difficile de quitter son savoir ou sa science ou ses connaissances, son raisonnement, etc., pour se lancer uniquement vers quelque chose de beaucoup plus simplifié. En fait, voilà, ça a été très long ce chemin, et il n'est pas fini d'ailleurs, mais je pense que c'est un album simple, avec des chansons simples, des mélodies simples. Et je suis assez content de ce résultat.
Cette chanson, Je ne vois pas le monde, elle résume bien votre chemin.
Oui, en plus c'est un mea culpa. Mmh. Quelque part, j'accepte l'idée que ce que je vois du monde, c'est extrêmement étriqué, et que finalement je ne le vois pas comme la plupart des gens autour de moi, je l'interprète, et c'est cette couleur un peu subjective qui est aussi intéressante. Mais ça aussi ses limites, et puis faut savoir que tout ce qu'on imagine des gens, que tout ce qu'on imagine du monde, que toutes nos idées, finalement elles sont pas vraies de bout en bout. Ce ne sont que des impressions qui méritent d'être échangées avec les gens autour de nous, mais ça s'arrête là.
Alors les mots, le texte a vraiment une importance si dans vos chansons, on le sent bien. Si on parle de la mélodie maintenant, donc c'est peut-être un peu moins rock qu'avant.
Oui.
Plus de place à la chanson, et même si quand même il y a des chansons, on retrouve cette rage vos amours, ou elle ne se supporte plus, et ça c'est quand même, il y a des rythmes comme ça très très rock. Oui. Chaque chanson avec aussi l'accordéon, on entend du banjo, du ukulélé, chaque chanson crée comme ça son univers autour du texte. Comment ça se passe entre la mélodie et le texte?
Ça s'est toujours un peu passé de la même manière, à savoir c'est un petit peu mélangé. J'écris toujours un petit peu quelques mots, et puis ces quelques mots, j'arrive pas. J'ai jamais, par exemple, écrit un texte entier comme ça. Moi, il me faut vraiment de la mélodie, il me faut vraiment les accords. Donc éventuellement j'ai une phrase et grâce à cette phrase que je vais chanter à plusieurs reprises sur l'accordéon ou sur le piano, eh bien une mélodie me vient. Et puis cette mélodie, une fois qu'elle est venue, eh bien d'autres mots vont me venir. Et puis ce sont des allers-retours sans cesse entre les mots et la musique. Alors lorsque les mots sont très simples, lorsque les phrases sont très simples, ça m'a aussi aidé à composer plus simplement, à être plus plus évident dans mon rapport à la mélodie. J'ai travaillé les refrains plus que jamais. C'est finalement tout s'est fait un petit peu dans la même lignée, puis d'une manière un peu évidente, voilà. Donc je trouve ça plutôt bien d'écrire comme ça et de composer comme ça de cette manière.
Écriture simple mais percutante.
Oui, c'est ce qui est, je trouve, assez délicat. Ouais. Comment être percutant? Je pense que c'est justement en étant très simple, en tranchant. Finalement, c'est dans l'os, quoi. Chaque chanson, en tout cas, c'est ce qui me semble. Je vise l'os beaucoup plus que le costume ou la jolie robe.
Elle ne supporte plus quand il pleure devant elle. Elle ne supporte plus lui et ses malheurs. Elle ne supporte plus quand il gémit et se plaint. Il joue la comédie, monsieur est comédien. Elle ne supporte plus son haleine, sa violence. Elle ne supporte plus quand il tend ses mains, quand il tend ses bras et lui raconte n'importe quoi et ne pardonne pas. Elle ne supporte plus quand il fait le fier. Elle ne supporte plus sa façon d'embrasser. Elle ne supporte plus sa manière de s'amuser, sa manière de se moquer. Elle ne supporte plus. Elle le sait d'avance. Elle ne supporte plus ce qu'il va lui dire. Elle ne supporte plus. Elle le sait d'avance. Elle ne supporte plus qu'il va lui mentir. Elle ne supporte plus lui et ses grimaces. Elle ne supporte plus quand il joue avec elle. Elle ne supporte plus quand il se met à genoux. Quand il lui dit tout à coup tu m'aimes. Elle ne supporte plus ses faux airs de poseur. Quand il lui dit qu'elle ne peut pas comprendre. Quand monsieur explique à madame qu'elle a besoin de lui, que sans lui c'est plus pareil. Elle ne supporte plus. Elle le sait d'avance. Elle ne supporte plus ce qu'il va lui dire. Elle ne supporte plus. Elle le sait d'avance. Elle ne supporte plus qu'il va lui mentir. La comédie, monsieur est comédien. Elle ne supporte plus son haleine, sa violence. Elle ne supporte plus quand il tend ses mains, quand il tend ses bras et lui raconte n'importe quoi. Elle ne pardonne pas. Elle ne supporte plus. Elle le sait d'avance. Elle ne supporte plus ce qu'il va lui dire. Elle ne supporte plus. Elle le sait d'avance. Elle ne supporte plus qu'il va lui mentir. Elle ne supporte plus. Elle le sait d'avance. Ce qu'il va lui dire, elle ne supporte plus. Elle le sait d'avance, elle ne supporte plus. Qu'il va lui mentir.
En parlant de corps, justement, je voulais qu'on revienne aussi sur votre passion ou manière, moyen d'exprimer, c'est la peinture.
Oui.
Entre la peinture et la musique, quelle est la différence de la façon de s'exprimer? Qu'est-ce que vous pouvez exprimer dans l'un et pas dans l'autre et vice-versa? Ou c'est complémentaire, finalement?
Oui, c'est complémentaire, oui. Je pense que je parle de la même chose, à savoir, en général, c'est une histoire de corps ou d'être humain. Voilà, c'est toujours ça qui m'intéresse, c'est toujours ça que... Bah, c'est normal, je fais partie d'espèce humaine et je me situe à partir de ça. Donc, mon regard, c'est toujours sur les gens qui m'entourent et moi-même en particulier. Ensuite, effectivement, la forme est différente parce que la peinture, il me semble, elle est muette, il n'y a pas de mots. Et éventuellement, il y a quand même le titre, qui a un petit peu un mode d'emploi, finalement, le titre d'une œuvre. Mais c'est tout, au niveau des mots, il n'y en a que deux ou trois. Et donc, c'est surtout quelque chose de muet, quelque chose qui fait appel à l'émotion, à une émotion, mais c'est un petit peu évanescent, un petit peu flou. Je trouve ça très intéressant aussi. Ça ne s'explique pas, la peinture. C'était pour ça qu'on essaye de mettre, d'ailleurs, un maximum de mots, parce qu'on n'y arrive pas, finalement. On tourne autour du pot. Quand quelque chose nous plaît en peinture, on a beau écrire un livre entier dessus, sur une toile, c'est jamais tout à fait ça, finalement. Je trouve qu'une chanson, elle a ce mérite... et en même temps cette limite de se dire immédiatement et avec des mots, c'est comme le langage que nous avons en commun les uns et les autres. Et donc voilà, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Moi je dirais qu'une peinture c'est extrêmement, une chanson c'est extrêmement parlant, c'est à la limite même une succession d'images, un peu comme le cinéma, des images qui nous viennent à l'esprit parce que c'est suite à des mots les uns après les autres qui créent des images. Alors que la peinture, oui, je trouve que elle ne dit rien, elle nous parle, mais pas avec des mots précis. Je trouve ça, l'un et l'autre, très intéressant.
Alors, en parlant de mots, quels sont les chanteurs, les textes qui vous influencent, qui vous inspirent ?
En ce moment, j'aime et puis je retrouve un peu son troisième album. Je connaissais les deux premiers que j'avais adorés. En ce moment-là, c'est Florent Marché, par exemple. J'aime beaucoup ce que fait ce chansonnier ou ce chanteur. Je trouve qu'il parle au niveau de sa musique et au niveau de ses textes. C'est quelque chose de très direct, très une sorte de Souchon, mais beaucoup plus peut-être trash, je sais pas. Souchon, c'est noir, par exemple, même si on a, c'est pas tout à fait ça ce que les gens peuvent dire, mais c'est ce que je ressens. Et un Florent Marchais, c'est encore un peu plus sombre, encore un peu plus penché vers l'enfance, vers... à la fois les rêves, les choses qu'on a pu fantasmer quand on était gamin, mais aussi les choses dures qu'on a pu vivre, mais sans qu'elles nous paraissaient dures à cette époque. Je trouve qu'il parle bien de l'enfant. Je trouve ça toujours très intéressant, ça.
Voilà, des thèmes qui vous sont proches, hein, sur lesquels vous exprimez, l'amour, l'enfance.
Oui, moi, alors voilà, moi, pour Je ne vois pas le monde, j'ai un peu plus misé sur un thème... très connu, limite très rabâché, qui est celui de l'amour. C'est vrai que j'avais envie de parler de ça pour ce disque, en tout cas. Ouais.
Mais en même temps, l'amour, c'est tellement universel et c'est inépuisable comme.
C'est inépuisable, c'est vrai, ouais. Et puis c'est lié à un chemin de vie. Je pense qu'on n'aime pas pareil à 40 ans qu'à 20 ans et qu'à l'âge de 10 ans. Je pense qu'à 10 ans, l'amour qu'on a. C'est un apprentissage, on est à nos débuts et je pense que c'est éventuellement notre mère et notre père qui nous ont enseigné ça, tout simplement, parce que ce sont les deux premières personnes qui nous ont aimés. Je pense qu'ensuite, à 20 ans, enfin c'est mes souvenirs en tout cas, c'était un amour plutôt idéalisé, donc là on quitte vraiment la mère et le père pour pas forcément rencontrer un amour encore physique, même s'il commence à venir. Et puis à 40 ans, je pense qu'on est beaucoup moins dans l'amour idéal, on est plus dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la bienveillance, puis un amour un peu plus large aussi. Il n'y a pas que la personne qu'on aime, à savoir sa femme ou son homme, mais aussi ses enfants, et puis encore un peu plus large aussi, les gens qui nous entourent. Puis, donc ça, c'est mon âge, mais j'imagine aussi à 60 ans, c'est évidemment autre chose. Enfin voilà, ce qui m'intéresse dans l'amour, c'est que ça nous questionne à tout âge, et que les réponses varient aussi suivant... Et l'âge et notre sensibilité.
L'amour, l'amour. L'amour, l'amour.
Toujours l'amour.
L'amour, l'amour.
Toujours l'amour.
L'amour, l'amour.
Toujours l'amour.
L'amour à vif, l'amour au ventre, l'amour, toujours l'amour. L'amour a commencé si tôt que tu te jettes à l'eau. L'amour à nu, l'amour à fond, l'amour, toujours l'amour. Le grand amour à grandes eaux, ça te nettoie la peau.
L'amour,
l'amour,
toujours l'amour,
l'amour, l'amour,
toujours l'amour.
sens quand le désir te met debout. L'amour qui cogne, l'amour total, l'amour, toujours l'amour, qui frotte comme un fou jusqu'à te rendre complètement sous. L'amour, l'amour, toujours l'amour, l'amour, l'amour. L'amour loué, l'amour chanté, l'amour toujours l'amour, que tu consommes, qui te consume et que rien ne console.
Merci beaucoup Christophe Belœil. Donc l'amour, hein, d'ailleurs on le voit souvent dans les titres, hein, nos amours, toujours l'amour, les amants, mon ami aussi, vous l'avez dit, c'est important. Je voulais juste qu'on termine avec... avec ces mots, ce langage, puisque outre le fait d'écrire vous-même, de composer, vous animez aussi des ateliers d'écriture. Oui. Je sais que vous intervenez par exemple avec des associations pour lutter contre l'illettrisme et montrer que finalement tout le monde peut écrire et que le langage, les mots sont hyper importants pour trouver son chemin.
Oui, je pense que mettre des mots sur soi et sur sa vie... c'est un des moyens, mais un des principaux moyens d'avoir un peu de pouvoir et de maîtrise sur sa vie. Et je pense que c'est de l'ordre de l'éducation, mais pas forcément nationale, ou éducation populaire, voilà. Je m'estime, moi, faire partie de ce mouvement d'éducation populaire. Un mouvement qui vise à émanciper chacun d'entre nous. Et puis, je trouve que via le langage, c'est extrêmement important. Et tout en faisant des jeux, voilà, ce sont des jeux d'écriture. Il n'y a pas d'enjeu, moi, dans ce que je propose. C'est pas histoire de se dire, est-ce que j'écris mieux ou pas assez bien, mieux que mon voisin ou moins bien que mon voisin, mais j'écris simplement différemment. Et puis c'est la découverte de sa propre singularité qui permet à chacun d'entre nous, d'être sujet de sa vie et non pas d'être dirigé par les autres, par des gens qui eux ont le pouvoir, mais de se diriger soi-même, au moins une partie de sa vie. Et je trouve que le langage permet ça, entre autres.
Alors, est-ce que ce langage, Christophe Belœil, pour terminer, fait qu'on peut vous compter parmi les gens heureux, comme dans votre chanson ?
Oui, ça c'est... Je trouve que c'est très bien de finir sur cette chanson. C'est la dernière chanson qui ferme le disque et qui le rend clos. Je reviendrai pas sur ce sujet ou d'une autre manière, sur le sujet de l'amour ou du bonheur. Je pense que cette chanson, bon, faut que les gens l'écoutent, mais elle est toute simple, c'est voix accordéon, et ça dit une seule chose, c'est que avec le temps, avec le chemin qu'on parcourt, lorsqu'on traverse des périodes plus ou moins noires, on n'a pas d'autre choix que d'être attiré par la lumière et voilà, de quitter des plaintes ou de se plaindre ou je ne sais quoi pour simplement se dire le monde c'est simplement ça, ma vie c'est simplement ça, et vivre heureux c'est déjà simplement se poser, regarder autour de soi, et on se rend compte que on a beaucoup plus de raisons d'être heureux que d'être malheureux, etc., etc. Chacun de voir, mais...
Merci Christophe Belœil. Donc les gens heureux, eh bien on va l'écouter. C'est extrait donc de votre album Je ne vois pas le monde.
Merci beaucoup.
Les gens heureux n'ont pas d'histoire aux yeux de ceux qui croient tout savoir. Les gens heureux ne pensent à rien, pensent les péteux, les sûrs, les certains. Les gens heureux ne parlent pas d'eux, ne font pas d'histoire, pas pour si peu. Ils vous écoutent droit dans les yeux et peuvent paraître bien silencieux. Les gens comme eux n'ont plus peur du noir. Ils ont traversé le froid, les couloirs. Ils ont ouvert grand tous les placards. Ils ont fouillé les greniers, les tiroirs, balayé leur fichu bazar, dépoussiéré leurs vieilles histoires. Ces gens-là n'ont plus peur du noir. Thank you.
gens heureux sont orgueilleux, disent les envieux, les plus malins qu'eux. Les gens heureux pardonnent aux amis qui donnent si peu quand ils sont aigris. Les gens heureux gardent au fond d'eux le bleu du ciel, le chaud du soleil. Ils savent ce qu'ils ont, ce qui est précieux. Peu de choses en somme, les hommes sont si peu. Les gens comme eux n'ont plus peur du noir. Ils ont traversé le froid, les couloirs. Ils ont ouvert en tous les placards. Ils ont fouillé les greniers, les tiroirs, balayé leur fichu bazar, dépoussiérer leurs vieilles histoires. Ces gens-là n'ont plus peur du noir.